Chapitre 9. Vendredi 14 avril, 14h45. Monsieur Drummond, Holmes, James et le colonel avaient fait le tour des étages supérieurs du palais de l'agriculture, du péristyle, du gigantesque palais des manufactures et des arts libéraux et de la terrasse sud du palais de l'électricité et partagé un déjeuner rapide et tardif sous la tente de toile servant de cantine provisoire aux ouvriers. Au coin nord-est du palais de l'agriculture, Holmes avait désigné un pilier planté à l'extrémité de l'étroite terrasse. Un long câble descendait du pilier jusqu'à une balise lumineuse de 2 ou 3 mètres de haut, posée sur un îlot de béton à environ 10 mètres de la digue. « À quoi sert-il ? » avait demandé Holmes. « À retenir le palais de l'agriculture par grand vent ?» Le colonel Rice avait retiré son cigare de sa bouche pour sourire.
« Il y en a un autre exactement identique au coin sud-est du palais des manufactures, en face. Quelqu'un a eu l'idée de suspendre les drapeaux de toutes les nations le long de ces câbles, afin que les visiteurs débarquant des bateaux au bout du quai se sentent accueillis à bras ouverts. »
« Et ce sera fait ?» demanda Holmes. Rice secoua la tête.
« Les drisses ne coulissaient pas comme il fallait. Le vent a arraché les drapeaux et l'idée a été abandonnée. Les câbles n'ont pas encore été retirés, c'est tout. »
James fut très impressionné par le péristyle, sa longue rangée de colonnes corinthiennes et son grand arc de triomphe sous lequel passeraient les visiteurs arrivant par le lac à l'exposition.
« Le péristyle relie le petit casino côté sud au music hall côté nord, » dit le colonel Rice. « 47 colonnes géantes, une pour chaque état et territoire. Il dispose aussi d'une terrasse seulement accessible par un escalier à l'extrémité sud. »
« Allons donc admirer la vue, » proposa Holmes. Au-dessus de l'arc, au milieu de la promenade du péristyle, qui offrait en effet une vue extraordinaire à la fois sur la ville blanche et le lac Michigan, ils se retrouvèrent précisément en face du palais de l'administration où le président ferait son discours. « À combien estimez-vous la distance, colonel ?» demanda Holmes. Rice plissa les yeux.
« 480 mètres, pas plus de 500.
Sûrement trop loin pour qu'un tireur armé d'un fusil puisse viser et tirer avec précision. »
fit remarquer Henry James. Rice, Drummond et Holmes échangèrent des regards. Le colonel fut le premier à parler.
« Les meilleurs fusils modernes ont une précision d'une dizaine de centimètres jusqu'à une distance de 900 mètres. »
Il retira son cigare de sa bouche comme par respect pour une telle prouesse. Puis il se tourna vers Holmes.
« Savez-vous quel type d'arme ce Lucan Adler a l'intention d'utiliser ?»«
Oui, nous croyons le savoir. »
Il a assassiné 4 puissantes personnalités en Europe depuis l'automne dernier. Chaque fois, il s'est servi d'un Mauser modèle 1893, sans doute avec une lunette télescopique. Il ne laisse pas de douille derrière lui, mais toutes les victimes semblent avoir été tuées par des cartouches de 7 mm. Le Mauser 93, adopté par l'Espagne cette année, qui en a notamment équipé ses troupes à Cuba, a un mécanisme à verrou et un chargeur de 5 cartouches. Le colonel Rice fit la grimace.
« Je ne suis pas familier des Mauser, et encore moins de ce nouveau modèle. Connaissez-vous la vitesse à la bouche ?»«
700 mètres par seconde. »«
Et la portée optionnelle ?»«
Un peu plus de 1800 mètres, 1820 mètres pour être précis. »
Ces chiffres ne signifiaient rien pour James, mais le colonel Rice parut affecté d'une manière presque viscérale. Pour la première fois, l'homme trapu retira non seulement le cigare détrempé de sa bouche, mais aussi son chapeau melon pour frotter son crâne dégarni.
« Mon Dieu » murmura-t-il. « Si nous avions eu un fusil pareil à Gettysburg. »
Holmes hocha la tête.
« Vous auriez pu viser des cibles individuelles dès que les confédérés sont sortis des bois à 1,5 km de l'autre côté de la plaine. 5 cartouches sans avoir à recharger. »
Rice souffla un grand coup.
« Bon, ça n'a plus d'importance. Votre Lucan Adler voudra se rapprocher le plus possible. »
« Pourquoi donc ?» demanda James. «
S'il peut atteindre sa cible à plus 1,5 km. »
Rice sourit.
Un homme, c'est pas une cible en carton, dit-il.
Et James eut l'impression que l'erreur de grammaire était volontaire chez ce militaire qui avait fini la guerre au grade de brigadier général.
En marchant à une vitesse normale, 3 km à l'heure, un homme ferait 2 pas dans le temps que mettrait la balle à l'atteindre. Le tireur raterait donc sa cible.
Il montra le palais de l'administration à l'ouest au bout du grand bassin.
« Bien sûr, le président Cleveland se tiendra immobile, mais de face, et le tireur aura sûrement ajusté sa visée pour une élévation de 45 centimètres. »«
Je ne comprends pas, »
intervint James. L'agent Drummond leva les mains comme pour cadrer la zone de cible devant le palais de l'administration au loin.
« Cela signifie, monsieur James, que s'il veut atteindre le président à la poitrine,
et l'on admet que c'est une cible large, le Canadler devra utiliser sa lunette télescopique pour viser 45 cm au-dessus, disons le haut du front. À mon avis, il serait préférable de tirer dans la tête, remarqua James, dégoûté de s'entendre proférer une chose pareille.
Nous bougeons la tête beaucoup plus qu'il nous semble, surtout lorsqu'on fait un discours, dit le colonel Rice. Bien, allons voir le palais des manufactures, puis celui de l'électricité, et finissons-en. Ensuite, nous irons déjeuner.
Holmes, Drummond et James le suivirent sur la promenade du péristyle sans prononcer un mot. Le palais des manufactures et des arts libéraux était de loin le bâtiment le plus grand et le plus impressionnant qu'ils visitèrent. À l'intérieur, c'était le chaos, un chaos très bien orchestré comme on s'en rendait compte lorsqu'on y prêtait attention. Des milliers d'appareils étaient sortis de leurs caisses, assemblés et mis en service. Au loin, James aperçut un élégant télescope qui devait mesurer au moins 18 mètres de haut.
Vous auriez dû voir cette salle quand elle était vide,
dit le colonel Rice alors qu'ils attendaient que l'ascenseur Otis Hale descende. La cabine semblait suspendue dans les airs au milieu des poutres d'acier à 60 mètres au-dessus d'eux.
Nous avons assisté à la première cérémonie d'ouverture l'année dernière, à la fin du mois d'octobre. Ce jour-là, 140 000 personnes se pressaient dans ce parterre de 130 000 mètres carrés. Les menuisiers avaient dû construire une estrade capable de supporter 5 000 notables sur leur petite chaise jaune. L'ancien maire, Monsieur Harrison, avait un siège sur cette plateforme, mais il a passé la plupart du temps à serrer la main à des citoyens debout. Et il faisait un froid de canard. Les hommes avaient conservé leurs manteaux et leurs chapeaux, et les femmes, emmitouflées dans leur col de fourrure, gardaient les mains dans leurs manchons en vison quand elles n'agitaient pas des petits mouchoirs blancs au rythme de la musique. Et la cérémonie n'en finissait pas. Au bout d'une heure environ, j'ai entendu un bruit semblable à l'avancée d'une armée, avant de comprendre que c'était les hommes qui tapaient des pieds pour se tenir chaud. Pendant toute cette cérémonie pompeuse, on voyait la buée de notre haleine. Au bout d'une demi-heure, je vous jure, des petits nuages s'étaient formés sous les treillis métalliques tout là-haut.
Le public pouvait-il entendre les discours ? Demanda James.
Oh, les 10 personnes les plus proches du podium sur l'estrade. L'espace est si fichtrement grand et sonore que les organisateurs avaient dû faire appel à d'anciens militaires que je leur avais fournis pour faire des signaux à bras avec des pavillons, afin de prévenir les 500 musiciens de l'orchestre et les 5000 choristes quand c'était à eux de jouer ou de chanter.
Est-il sorti quoi que ce soit d'intéressant de cette journée ? Demanda Drummond.
Eh bien, un type qui publie des magazines pour la jeunesse a rédigé un serment que le bureau de l'éducation a envoyé à toutes les fichues écoles du pays pour que ce 21 octobre, tous les gamins de la nation jurent de servir leur patrie.
Un serment ? Répéta James dubitatif.
Moi, je me souviens seulement du début, reprit Rice. Je prête serment d'allégeance à mon drapeau et à la République qu'il représente.
Obliger les écoliers à prêter un serment national ne me paraît pas très américain, fit remarquer James.
Non, renchérit Holmes. Ça fait plutôt allemand. Très allemand.
Le trajet en ascenseur jusqu'au niveau de la galerie extérieure fut une surprise pour Henry James. Il en eut littéralement le souffle coupé. L'ascenseur ultra rapide conçu par l'entreprise Otis Hale était une simple cage ouverte sur trois côtés, qui s'élevait si vite à travers des anneaux de lumière électrique qu'on était pris de vertige tout en se sentant plus lourd. Quand l'appareil s'arrêta en haut et que les portes s'ouvrirent, James crut une seconde que ses pieds ne touchaient plus le sol de la cabine.
« Cet ascenseur devrait être une attraction à lui tout seul »,
commenta-t-il une fois qu'il eut repris son souffle.
« Je ne doute pas qu'il le sera »,
renchérit le colonel Rice.
« Je ne suis pas sûr d'avoir envie de le prendre plus d'une fois », dit Drummond.
La galerie extérieure du Palais des Manufactures et des Arts Libéraux faisait le tour du gigantesque bâtiment. À la place d'une balustrade en pierre ou en plâtre, une simple barrière grillagée servait de garde-corps, ce qui rendait la sensation d'altitude encore plus palpable. La vue était extraordinaire. James s'aperçut que si M. Ferris réussissait à construire sa grande roue, les visiteurs qui se tiendraient sur cette plateforme d'observation se trouveraient presque au même niveau que les cabines au point le plus haut de leur rotation. Naturellement, Holmes, Drummond et Rice ne s'intéressaient qu'à la partie de la plateforme d'où un fou pourrait tenter d'assassiner un président.
« Il y a un énorme projecteur à trois des angles », remarqua Holmes comme s'il se parlait à lui-même.
Rice lui répondit tout de même.
« Oui, monsieur. De fabrication allemande, très puissant et précis. Ils seront utilisés pour illuminer les édifices, les fontaines, l'île boisée et le reste le soir. Un seul suffirait à nous montrer un lapin à presque 2 kilomètres de distance. »
Chacun des projecteurs avait un socle de 60 cm carrés et de 70 cm de haut. L'acier était peint en laque noire. Les quatre hommes se trouvaient au coin sud-ouest de la plateforme d'observation, celui qui offrait la meilleure vue sur le palais de l'administration et l'estrade où se tiendrait le président Cleveland dans à peine plus de 2 semaines. Holmes s'accroupit et montra une serrure sur une face du socle du projecteur. « Auriez-vous la clé, colonel ?»
Une fois encore, Rice sourit. « Vous m'avez entendu cliqueter pendant les 2 dernières heures. Sur cet anneau, j'ai la clé de toutes les serrures de ce site. »
En un instant, il trouva la petite clé qui ouvrait la trappe de visite. Holmes se coucha à plat ventre pour regarder à l'intérieur, et Drummond fit de même, mais James, ne voulant pas salir son costume, se contenta de s'accroupir pour regarder par-dessus l'épaule du détective. À l'exception de plusieurs câbles épais émergeant du sol et de quelques supports en fer, l'espace obscur était vide. Ce logement de métal noir semblait avoir pour seule fonction de servir de base au projecteur de 2 mètres de haut.
« Merci, colonel Rice », dit Holmes se relevant et époustant sa veste et son pantalon.
« Allons voir le coin sud-est, voulez-vous ?» Les derniers nuages menaçants de la matinée avaient disparu et les quatre hommes s'accoudèrent à la barrière métallique pour profiter du soleil printanier.
« Un tir sera plus difficile d'ici, » dit Drummond. « Ça rajoute 90 mètres par rapport au coin sud-ouest où nous étions. »
« Tout à fait, » confirma Holmes.
« Et ce ne serait pas facile de stabiliser un fusil sur cette barrière métallique basse. Mais un homme qui se tiendrait sur le socle du projecteur, il pointa sa canne derrière lui sans se retourner, pourrait poser le canon de son arme sur les sillons de l'appareil.
« Combien mesure un Mauser 93 ?» demanda le colonel.
« 1m20 », répondit Holmes du tac au tac. Puis il eut un mince sourire, sans sa baïonnette. De tous les grands monuments qu'ils inspectèrent, le palais de l'électricité fut celui qui plut le plus à James. Il jouissait d'une délicieuse terrasse arrondie qui donnait sur les bassins, les ponts et côté sud-est sur la façade du palais de l'administration. Une grande et élégante statue de Benjamin Franklin se dressait à l'entrée de l'édifice, d'où émanait déjà une odeur d'ozone. Holmes montra moins d'intérêt pour la terrasse que pour les 8 hautes flèches s'élevant à différents coins de la structure.
« On peut y monter ?» s'enquit Drummond.
« Bien sûr !» répondit le colonel. « Ces flèches mesurent 50 mètres de haut, et les arcs ouverts au sommet offrent une des plus belles vues de tout le site. »
Regardant par la large ouverture de la flèche la plus proche du palais de l'administration, Holmes visa vers le bas avec sa canne.
Un tir légèrement de côté, mais le président se tiendra seul sur le podium pour faire son discours, son membre du Secret Service près de lui à ce moment-là.
Les autres notables seront assis, n'est-ce pas ?
Oui,
confirma le colonel Rice.
À moins de 100 mètres, dit Holmes.
Oui.
Et ce fut tout pour le palais de l'électricité. Après un déjeuner rapide et tardif sous une tente de toile, Holmes déclara « Vous voudrez bien nous excuser une minute, j'espère, monsieur James ?» Et il entraîna le colonel Rice et Drummond à l'écart pour un conciliabule d'un quart d'heure. James en profita pour boire un autre café. La partie terminée, Drummond s'approcha de lui.
C'était un plaisir et un honneur de vous rencontrer, monsieur James. Si nos chemins étaient amenés à se recroiser, j'espère que vous ne trouverez pas présomptueux de ma part d'apporter quelques-uns de vos livres pour que vous me les dédicaciez. Ils constitueraient le clou de ma collection et un bel héritage pour mes enfants.
Bien sûr, assura James.
Drummond lui serra la main, s'inclinant légèrement et quitta la tente réchauffée par le soleil. James, voyant que la discussion de Holmes et Rice était terminée, les rejoignit.
« Il y a une chose que vous n'avez pas demandé ni mentionné, monsieur Holmes, »
dit le colonel Rice en serrant la main du détective.
« Laquelle ?»«
Quel que soit l'endroit choisi par votre Lucan Adler pour tirer, il faudra bien qu'il en reparte, ce qui lui posera un petit problème. Si un événement aussi terrible qu'un attentat contre le président devait survenir, la garde colombienne fermera immédiatement toutes les issues. » Les sorties sont reliées par des lignes téléphoniques. Aucun bateau ne sera autorisé à quitter l'embarcadère. Votre homme est-il suicidaire ? Veut-il être un martyr de la cause anarchiste ?
Pas le moins du monde. Lucan Adler n'a jamais commis d'assassinat sans avoir savamment planifié sa fuite.
Le colonel Rice montra le boulevard longeant le bassin devant lequel il se tenait.
Nous pouvons fermer les accès aux terrasses et aux tours comme vous l'avez demandé. Mais ces espaces de parade et toutes les rues transversales seront remplis de centaines de milliers de gens paniqués. Et aucun d'entre eux ne sortira sans avoir été inspecté par la police ou ma garde colombienne.
C'est un vrai défi de réfléchir à une issue possible, n'est-ce pas, colonel ? Demanda Holmes. Sans un mot de plus, il hocha la tête, effleura son chapeau et se détourna. Henry James dit adieu au colonel Rice et suivit Holmes dans les rues de la ville blanche, pleine de grues, de gravats, de paille et de milliers d'ouvriers.